par Patrice Ortoneda, qui est psychologue à Toulouse. Les notions anciennes de transversalité et actuelles de réseau ouvrent à l'articulation d'un accueil qui est tout autant prise de mesure du collectif nécessaire qu'accueil d'une singularité. L'un et l'autre étant à soutenir. C'est justement ce paradoxe que, monsieur, vous allez nous présenter en ayant recours au concept de tant de pathoplastie, de différences établissement-institution, de psychothérapie et de pédagogie active, de collectif, de narcissisme de mort et de destructivité ou constellation transférentielle. Là, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. À vous la parole.
Là, ça marche, oui. Je dis, ça fait beaucoup, 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 pour une petite demi-heure. En premier, bon, je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir invité, mais je les remercie doublement parce qu'ils m'invitent en terre catalane. Dans un pays qui a connu la retirada, dont je suis issu. Donc ça, je ne développerai pas personnellement. Mais même si le Liban est loin et il s'y passe des choses tragiques, il s'est passé de ce côté-ci de la Méditerranée suffisamment de choses tragiques aussi, de guerres réellement fratricides. Autre chose aussi, c'est, ça me paraît très important de parler. Si je m'éloigne, ça va mieux ? Non, on n'entend pas. Je vais prendre un de ces micros. Oui, ça va là. Autre chose aussi, c'est effectivement le fait que je suis de multiples façons donc attaché à ce pays. Un autre point important aussi, c'est que ce lieu a accueilli les derniers jours, malheureusement, de Walter Benjamin. Mais au niveau de l'histoire, vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler de Walter Benjamin, qui fuyait le nazisme et qui n'a pas réussi à passer la frontière espagnole et qui est mort donc ici, et notamment la ville de Céret continue à porter sa mémoire. Un autre point important pour moi, bien sûr, c'est l'histoire. Hein, parce que vous voyez, on a parlé de la mémoire, on parle du trauma de la mémoire. Je pense qu'on a fait un énorme bond en avant lorsqu'il a été parlé de la temporalité. Mais voyez que quand on parle histoire, ce n'est pas la petite histoire dont il est question. C'est l'articulation de toutes ces choses-là. Donc la retirada, Walter Benjamin, quelque chose ici aussi qui a été tissé dans ce pays, et particulièrement ici à Thuir, c'est le travail de Henri Hay, qui a produit un manuel de psychiatrie extraordinaire et qui a ouvert des journées nationales à Bonneval, tout aussi extraordinaires. Henri Hay, quand j'ai commencé à le lire au début des années 70, j'y ai attrapé quelque chose qui m'a marqué pour toute ma vie professionnelle en psychiatrie après, c'est qu'il disait « le moi et le monde sont consubstantiels ». C'est une formule un peu phénoménologique, mais qui me paraît tout à fait importante. Le moi et le monde. Mais si vous ne faites pas d'histoire, le monde, vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Hein ? Donc ça aussi, c'est un point important dans le pays et qui fait histoire. D'autres petits points font histoire aussi pour moi. Je suis venu assez régulièrement pour suivre des travaux de quelqu'un que certains d'entre vous ont connu peut-être à l'université ou dans des groupes de travail ou comme psychanalyste. C'est Michel Ballat, qui, je pense, a amené énormément de travail et qui est un ami proche. Il existe plein de liens comme ça, voyez, et je pourrais les réactiver. Mais ça, ça s'appelle la remémoration et ça s'appelle l'histoire en même temps. Donc ça, c'est un préambule. Un peu un autre préambule, après je vais vous lire un texte parce que j'ai essayé de concentrer, donc je me contenterai d'une lecture. Un autre préambule, qui est un peu rigolo, vu mon voisin de droite, c'est le premier titre que j'ai donné à l'essai de travail que je pensais apporter ici. Ce premier titre, c'était « Porter plainte ». Un peu comme si je m'adressais tout de suite à la justice. Mais j'aimerais qu'on ne file pas si vite que ça avec les mots, qu'on ne galope pas aussi vite que ça vers le sens d'une formule. porter plainte, vous voyez qu'on peut accentuer le côté de la plainte, et Dieu sait que dans les institutions, les établissements, la plainte peut être quelque chose qui revient régulièrement, et j'en parlerai dans mon topo, pour de multiples raisons. Mais il y a aussi un point qui pourrait être important, c'est la notion de portée. Portée, vous savez qu'il y a un pédopsychiatre assez célèbre qui s'appelle Pierre de Lyon. Pierre de Lyon a parlé d'une fonction phorique, la possibilité de porter, la possibilité de tenir. Je pense que ces choses-là sont éminemment importantes parce que dans tout ce qu'on se raconte, les uns ou les autres de façon fort différente, on pourrait dire qu'il y a une question, pour pouvoir traiter des psychotraumatismes, il y a une question préalable. Il y a un fameux texte qui s'appelait « Préalable à tout traitement de la psychose ». Préalable, il y a des préalables, sinon on ne peut pas traiter, quoi. Donc la fonction phorique de Pierre de Lyon est intéressante parce que elle est, je dirais un mot de Winnicott aussi, elle est effectivement ce qui est en tout premier. On peut faire le pont, faisons-le tout de suite, avec Winnicott lorsqu'il parle du holding ou du handling, vous voyez, du portage de l'enfant et d'un dialogue, si vous voulez, tonico-postural. Et donc là, on n'est pas dans une pensée, dans du cognitif, dans des choses de cet ordre-là. Et même ça va au-delà, parce que Pierre de Lyon donne deux autres fonctions après la fonction phorique. La deuxième, c'est la fonction sémaphorique, et la troisième, c'est la fonction métaphorique. Mais si vous entendez sémaphorique, vous savez ce que c'est qu'un sémaphore, vous n'êtes pas loin de la mer ici. C'est ce qui fait signe. Donc la fonction phorique, vous voyez, elle arrive même avant les signes, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qu'elle transporte, mais c'est de l'ordre d'un portage et d'un échange. On a beaucoup parlé ce matin de relationnel et de choses comme ça, comme étant premier. Ce sont ces choses-là que j'essaye d'aborder avec cet intitulé « Porter plainte ». J'essayais de rentrer directement là, maintenant, dans l'espèce de concentré que j'ai essayé de faire de tout ce qui m'a traversé. En premier, je rappelle l'argument. Je l'ai juste découpé, cet argument, mais il y est écrit, dans toutes les institutions, les professionnels sont de plus en plus traversés par la souffrance. J'imagine que c'est quelque chose qui a dû vous toucher. Donc, le dernier titre que j'ai fini par poser sur mon papier, j'ai été plus direct. Plutôt que toutes ces glissades sur le porte-plainte. J'ai été plus direct et je l'ai intitulé « Création et destruction des métiers ». J'ai mis un point et j'ai rajouté un petit caractère « Dimension anthropologique ». Ça peut apparaître comme une coquetterie. Mais ça veut dire qu'on ne peut se poser ces questions-là qu'à hauteur d'homme, de ce qu'est l'homme. On va y revenir sur la fin de mon topo. Bon, je lis. Je suis désolé, il me faut concentrer. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette journée et j'ai le souvenir de mon hésitation devant l'ampleur de ce thème qui effectivement cumule trauma et complexe. Un échange en table ronde était alors prévu et vous aviez alors précisé que vous souhaitiez me voir intervenir à partir de ma pratique poursuivie au fil de nombreuses années de ce qui se nomme aujourd'hui groupe d'analyse de pratique et de ce que je pourrais, de cette place donc, retenir et reprendre avec vous, si ce n'est de l'impact, des réactions ou du mode d'accompagnement ou même de rejet défensif que les personnels et, un cran au-dessus, leurs institutions peuvent développer plus ou moins consciemment dans leur menée professionnelle. Devant l'ampleur de telles questions, j'ai, je l'avoue, été tenté en premier de me protéger et même de me défendre en cherchant contenance, rassemblement de multiples expériences partagées et vécues, puis de tenter devant un tel flux de situations, de tenter donc de les ordonner. Ordonner avec, disons, raison. Et me voilà glissant, aspiré par ce que l'on nomme le savoir. Besoin de sagesse, certes, mais indiscutablement besoin défensif, évitement, la question du savoir. Donc je ne développerai pas vraiment cela. Je vais toutefois juste glisser ici deux points plus attractifs pour moi dans cet abord évitement. Les deux sont en lien avec Freud. À propos du style même de ses avancées réflexives. Vous avez tous sûrement entendu parler de sa désillusion formulée par un « je ne crois plus à ma neurotica ». Freud, c'était l'époque où il a fini par écrire avec son ami Fliess un énorme livre sur l'hystérie, et sa neurotica, c'était effectivement le fait qu'il entendait combien les familles pouvaient être intrusives, si ce n'est violeuses, hein, par rapport aux jeunes femmes qu'il rencontrait. Et donc, il avait là quelque chose qui était un point fort pour lui, qu'il appelait sa neurotica. Alors même qu'il s'était confronté à de nombreux traumatismes sexuels dans ses travaux sur l'hystérie et qu'il en avait admis leur implication causale, théorie dite de la séduction, au cœur même des familles, donc la séduction. Notons que ce qui le mène en 1897 dans cette voie d'abandon de ses premières assurances, c'est, disons, une autre théorisation, celle du complexe, par une approche du fantasme. Quel curieux hasard pour nous et quelle leçon en tirer ? Les opposer ou les conjoindre, le trauma et le complexe. De son côté, il note « Je ne sais plus où j'en suis », il écrit à son ami, et auquel il rajoute « Curieux aussi que je ne me sente nullement penaud de passer d'une situation à une autre. Hein ». Donc il ne se sent pas du tout penaud de faire marche arrière et d'essayer de tenir peut-être les deux points ensemble. Le deuxième point plus tardif dans sa pensée, 1920, et souvent perçu aussi comme un tournant, a été mon attraction par le titre même d'un de ses textes, Au-delà du principe de plaisir, où il évoque la jonction entre, c'est lui qui parle comme ça, mécanique, hein, du trauma et la psyché. Surtout, cet intitulé a mené pour moi dans cet au-delà comme une mise en valeur de la notion de répétition. Une compulsion à la répétition, on y revient. Hein, ça a été abondamment traité ce matin. Peut-être dans un lien, ça n'a pas été évoqué trop ce matin, peut-être dans un lien avec la réaction thérapeutique négative, autant dire avec une quasi-impossibilité de traitement et articulée chez Freud donc avec une proposition de nouveau dualisme pulsionnel entre Eros et Thanatos, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Mais revenons donc à notre affaire. Mon mouvement défensif, peu ou prou raisonnable, m'a également porté vers des souvenirs, des réminiscences, dit Freud, de débordements institutionnels extrêmes que je tentais là encore d'ordonner dans tout ce qui me revenait, car la désorganisation des services, établissements ou équipes pouvait présenter des degrés comme des formes différentes où j'ai cru entrevoir des réactions fortement en miroir des troubles et pathologies accueillis. Scissions et conflits, territoires défendus bec et ongles, mais encore plus spectaculaires et destructifs, systèmes persécutifs ou transiers dans certaines équipes, nostalgie versus mélancolisation dans d'autres et autodestruction de l'équipe, actes de violence physique, pédophilie, je m'étais dit que je n'emploierais pas le mot, mais le topo qui a précédé finalement me pousse à l'employer. J'avais mis entre guillemets pédophilie incrustée, c'est-à-dire quelque chose qui était, dans le service auquel je pense, et il y en a eu un ou deux comme ça, hein, qui était installé et qu'on ne pouvait pas bouger comme ça. Hein. Abus sexuels plus, entre guillemets, délimités, mais tout aussi ravageurs. Donc ça, c'est le côté des institutions. Vous hein, voyez tout ce qu'on peut, et j'imagine que chacun d'entre vous a des idées par rapport à côtoyer des choses comme ça. À côté de ces dérives incroyables et renversantes du soin, les tâtonnements de Freud paraissent bien pâles. Et pourtant, notez que je viens de laisser s'écrire, se présenter ce mot de renversement. Il me plairait bien de lui laisser s'adjoindre les échos d'un autre terme freudien, que renversement son contraire, retournement son contraire. C'est l'histoire du retournement sur le corps propre, notamment. Mais sans revenir à ces destinées pulsionnelles freudiennes différenciées du refoulement, il n'y a pas que le refoulement donc, et la sublimation, je vous propose plutôt à la place ce mouvement d'humeur de Jean Houry, soit à peu près, entre guillemets, donc c'est une reconstruction, mais j'ai entendu souvent Houry raconter des choses comme ça, Si un atelier, entre parenthèses, soignant, de médiation, marche trop bien, il faut passer à autre chose, disait Houry. Il faut quasiment le fermer et faire autre chose. Je crois avoir entendu par là que trop bien comme trop mal procèdent tous deux d'un évitement pur et simple de la conflictualité au profit d'un renversant, d'un retournement donc. Je n'oublie pas qu'il y a même aussi des maladies qui s'inversent, se retournent, fonctionnent en cycle, bipolaire, dit-on. Hein, c'est des choses que vous entendez régulièrement, ça. Et je pense que vous avez dû noter ce matin dans les références sur le temps le fait que les derniers intervenants ont touché un petit peu à ça, ils ont parlé du temps cyclique. Hein, le temps, ce n'est pas que le temps de votre montre. Hein, c'est un temps subjectivé. Hein, donc le temps cyclique, c'est ce temps des retournements. Et même la première intervenante a parlé d'oscillation à un moment donné. Freud avait peut-être bien aussi un tâtonnement fort instructif donc, dans ses présupposés de névrose traumatique et, je l'ai écrit en caractère gras, et complexe interne. Il faudrait d'ailleurs parler des phobies de nos adolescents. Hein, ce matin, j'ai été très touché par l'histoire du temps. Il n'a pas été corrélé très directement à quelque chose qui me semble rencontrer, que je rencontre régulièrement dans la clinique des adolescents que je continue à avoir dans mes groupes de travail. Quand ces temporalités se démontent, comme ça a été raconté, donc je ne le reprends pas, ça, hein, mais effectivement, ce qui vient à l'avant-plan, c'est la spatialisation. Ce n'est plus le temps, mais c'est le recours à l'espace. Et là, on voit par exemple toutes les phobies adolescentes de ces adolescents qui ne peuvent plus sortir de chez eux, qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus quitter leur lit, qui ne peuvent plus quitter la machine qu'ils tiennent dans leurs doigts, etc. etc. Hein ? Donc on a une spatialisation là qui est problématique et qui mériterait d'être travaillée sur la question des phobies, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces phobies ? Hein ? Bon, mais je ne peux pas aller plus loin. Ma défense, donc, vous voyez, parce que je parle toujours de mes défenses, a failli être aussi emportée par un recueil, une reprise désastreuse de sommes de vécu, d'évocations cliniques débordantes, perte d'une pensée contenante et somme pour le coup, une somme totale pour le coup à vous coller le démoral. Un burn-out, disent certains, si on commence à faire la somme de toutes ces horreurs. À propos de cette exposition intense et sans bordure adéquate, donc, si je m'y étais lancé, le journal Le Monde du 25 août indique, par exemple, dans un tout petit encart, qu'une infirmière sur deux quitte l'hôpital après 10 années de carrière et que seulement 10% d'entre elles resteront infirmières. Hein, donc, pour vous dire, si on se laisse aller à reprendre uniquement les aspects négatifs. Hein, et je notais ces jours-ci, donc le 6 octobre, en première page du Monde, il y a un petit encart bleu qui disait « Nous n'avons pas choisi le métier de soignant pour vous faire subir cette violence et être maltraitant. » Et il y a quasiment une page entière à la fin du journal réservée à effectivement ces gens qui font métier de soigner, métier d'accompagner et qui se retrouvent dans un métier de maltraitance. Quoi. Donc ça, c'est éminemment important parce que c'est une période. C'est une période sociale et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur les points historiques tout à l'heure. Nous parlons bien là de la possible destruction des personnels, des métiers et aussi des femmes et hommes qui avaient eu espoir d'y trouver un mode de socialisation dynamique. Socialisation, j'ai mis entre parenthèses, une fois encore de leur propre pulsion. Bon, ne craignez pas, évitons ces extrêmes, je vais continuer à vous parler de nos défenses et de notre métier, nous qui sommes encore là. Je ne sais pas vraiment pourquoi celle-là, mais j'ai eu envie d'extraire toutefois deux situations. Car ce dont je me doute, c'est que vous ne me pardonneriez pas de ne pas tenter de m'appuyer sur ce que l'on appelle vignette clinique. Il me faudra pourtant faire cours dans ma présentation de ces situations. Je vais en parler depuis une place de psychologue institutionnel, en hôpital le jour notamment, et dans un ITEP. Je repousse encore la place et réflexion à partir du groupe d'analyse de pratique. Première situation, il s'agit d'un garçon, 10-12 ans, abusé sexuellement dans sa famille, se jetant par la suite de façon incoercible sur toute fillette croisée. Il avait ainsi réussi à mettre en échec toutes les aides proposées au fil de divers placements, en famille d'accueil, en IME, en ITEP, en hospitalisation. Le foyer de l'enfance, obligé bien sûr de l'accueillir en dernier recours, a fini par l'exclure de son service habituel au profit d'une minuscule structure décentrée qui l'épuisera dramatiquement. Cette équipe vient nous rencontrer à l'hôpital Le Jour de la guidance infantile à Toulouse, donc sectorisée, pédopsychiatrie sectorisée, afin de nous le confier, rempli d'un espoir fou. Nous les recevons et leur proposons notre habituelle évaluation d'une semaine, suivie d'un bilan d'abord entre nous, puis avec eux. Au décours de cet accueil, nos éducateurs pensent unanimement, soit trois groupes de vie, 6 ou 7 éducateurs, impossible de le recevoir. Ils sont pourtant très aguerris. Ils disent « on ne peut le quitter des yeux ». Le bilan global interne s'accorde sur le fait que nous sommes un service public de soins pourtant adéquat. Nous avons à le recevoir, ce qu'il semble lui-même espérer. Mais nous allons convenir de le faire de façon très dosée. 2 séances de petits groupes analytiques, plus un accueil sur des temps de groupe scolaire avec nos enseignants, participation suivie de repas sur l'un des groupes éducatifs. Vous imaginez sans peine le rendu de ce bilan avec l'immense déception et amertume du foyer qui n'en pouvait plus. Nous avons fortement explicité ce dosage de soins, à la fois par ne pas rompre une fois encore les liens établis dans le placement en cours, chez eux, douloureux mais si difficilement construit et tenu, et aussi, afin de ne pas le leurrer, une fois encore, de ne pas leurrer une fois encore cet enfant par un accueil complet dans un service alors magique, certains diraient, une mère toute. Et nous nous sommes engagés aussi à nous déplacer sur le foyer pour affiner et mesurer avec eux régulièrement nos perceptions et évaluations à venir. Je crois qu'un an et demi plus tard, ce garçon, sorti de ce mauvais pas, a intégré paisiblement une famille d'accueil et un service médico-social adapté. Juste un clin d'œil sur le travail effectué en groupe analytique auquel il participait avec 3 ou 4 autres enfants, dont 2 fillettes. L'une d'elles ne manquait pas de répartie sous une apparence première de freluquette. Elle captait beaucoup son attention. Il n'y eut aucun débordement. Son ambigu rapproché vers elle tourna assez vite vers une attention maladroite, plutôt protectrice, dont elle n'avait, elle, aucune considération. Les séances se concluaient toujours par un temps de dessin privé. Un jour, il y représenta, très ennuyé, un pénis énorme, ne sachant trop quoi en faire ni qu'en dire. Ma collègue lui proposa fort simplement de poser une feuille blanche dessus et de le ranger ainsi dans la chemise des dessins. Il obtempéra, tout étonné. Bien après coup, nous pouvons penser qu'un changement avait lieu. Deuxième présentation. Mon souvenir est plus lointain et pourtant actif. Ça a peut-être aussi à voir le fait que ça me soit revenu avec un spectacle que j'ai vu ici d'une troupe théâtrale avec des patients. Je m'en suis rendu compte qu'après coup. Donc, encore ici, un jeune adolescent interne dans un pavillon dont j'avais la responsabilité de l'amener psy. Je le recevais régulièrement en entretien, le croisais au sein de divers groupes de coopératives et finalement, il s'était intéressé à un atelier théâtre que je co-animais avec une collègue orthophoniste, 1 ou 2 soirs par mois. Une troupe de théâtre accompagnait ponctuellement quelques week-ends afin d'intégrer notre petite troupe de l'établissement ITEP au sein d'une dizaine d'autres dont c'était le métier, des vrais professionnels, afin de produire une rencontre-spectacle en ville dont le thème était le cabaret de l'étranger. Au sein de notre groupe, cet intitulé propulsait à l'avant-plan nombre de réflexions, associations et jeux engagés. B, même à sa façon discrète, n'y était pas dans le retrait. Je dirais juste 2 mots bien pauvres de lui. Il était plutôt du style gentil, même s'il était capable de se mêler dans des situations plus difficiles avec d'autres ados attractifs et turbulents de son pavillon. Il ne présentait à mon souvenir guère de traits particuliers, si ce n'est comme une lenteur, un abandon au fil des choses. Pas vraiment une passivité, mais comme un se fondre dans le paysage. Toutefois, un symptôme majeur et ravageur, une énurésie épouvantable le mettait à mal et induisait force ségrégation, car une odeur puissante et tenace non seulement l'accompagnait, mais se déposait là où il s'arrêtait. Exceptionnellement, j'avais même sollicité le psychiatre attaché au pavillon afin d'envisager un possible traitement antidépresseur, sans que cela ait eu une suite. Sur le groupe théâtre, peu à peu, le mot d'étrangeté dont il s'était saisi l'amena vers un personnage féminin, puis vers une vieille femme plutôt sorcière. Il s'était alors attaché à en valoriser la chevelure, abondante, longue et noire. Mais ce personnage ne lui suffisait pas. Il lui fallait plus étrange encore, ce qui l'amena à lui chercher un animal de compagnie. Je vous vois en ce point imaginer une face de gorgone avec sa chevelure et donc ses serpents. Une image mythique, bien connue certes, archétypale diraient certains, emprunt symbolique commun, commode. Mais non, il lui importait à lui quelques détails plus personnels décisifs. Il pensa donc à de petits animaux à carapace et noirs. Et sa dame était censée les entretenir et soigner en les hébergeant dans sa chevelure touffue. Il finit alors par nommer ces animaux des cafards. Je me souviens que le jour du spectacle, en ville, l'odeur évoquée avait disparu. J'aimerais juste ajouter que les repas de ce cabaret avaient été à sa demande pris en charge par le cuisinier de l'ITEP, avec aussi leur note d'étrangeté. La note d'étrangeté du cuisinier, ici exprimée toutefois par de la couleur. Sa cuisine était de toutes les couleurs. C'était assez extraordinaire. C'était bio, hein, il n'avait pas versé des peintures dedans. Hein. C'était un homme assez extraordinaire. Si ces deux situations surlignent la menée peu commune, singulièrement adaptée d'un cadre institutionnel, et ne néglige pas le rôle actif des médiations, elles me paraissent aussi en définitive présentifier dans des proportions différentes le poids tant du trauma, que celui de la complexité du registre psychique.
Monsieur Ortodeda,
oui,
vous allez avoir une minute pour conclure.
Vous me donnerez les 10 minutes quand même.
Comment ?
Vous pouvez me donner les 10 minutes qu'on a pris en retard.
Non. Oui, là, il est 14h03. Je vous laisse 2 minutes pour terminer.
10 minutes pour terminer ?
Non, 2 minutes. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a plein d'intervenants juste après. Et si vous prenez tout le temps, les autres
n'auront
pas leur temps de parole.
Je vais avancer ce que je peux. Comme je l'ai répété ci-dessus, ces diverses approches ne me satisfont guère. Et malgré mes restrictions et retenues quant à leur développement, je ne crois pas avoir serré au plus près l'impact du trauma sur les personnels et les établissements évoqués par le programme. Et je crois bien qu'il nous faut maintenant revenir et serrer ce qui avait été posé dès le départ comme un éclairage espéré des groupes d'analyse de pratique. Effectivement, vous me perturbez, j'ai encore une page, c'est-à-dire il me faudrait 5 bonnes minutes ou plus.
Désolé,
bon, tant pis, je le joue comme ça, hein, c'est-à-dire que D'accord. Je ne lis pas mes pages, je m'arrête.
Mais l'idée, c'est qu'il va y avoir des questions dans le quart d'heure qui va suivre,
oui.
Et que peut-être vous pouvez réutiliser des morceaux de votre intervention que vous n'aurez peut-être, pas pu faire.
Peut-être. Ce que j'ai voulu développer après, c'était essayer de rattraper le concept proposé par Pierre de Lyon de type de regroupement de travail qui n'est pas rien du tout qu'il a appelé les constellations transférentielles. Hein, ce mot mérite que vous l'attrapiez, que vous le fassiez rebondir de multiples façons. Constellation, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape facilement, hein, mais transférentiel, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, les dynamiques actives des enfants qui vont choisir des personnels, et pas du tout par rapport à leur statut, pas du tout par rapport à je ne sais pas quoi, mais qui vont se diriger et qui vont diriger un fonds de créativité personnelle, hein, vers eux, vont faire qu'effectivement tout un bout de travail pourra avoir lieu. Bon, je clôt là, hein, je suis désolé, mais c'est l'essentiel de mon topo était quand même sa conclusion. Mais je pensais que c'était difficile en venant ici de ne pas reprendre quand même un tout petit peu le registre théorique et les pentes du savoir, et de ne pas reprendre non plus la clinique et les cliniques extrêmes que l'on rencontre. C'était effectivement une gageure. Bon, je suis désolé.
Merci. Votre intervention, monsieur Ortoneda, est très pointue et je pense que on va atteindre mon degré d'incompétence et je vais dire deux, trois choses qui vont peut-être être des bêtises. Hein, vous me reprendrez. Moi, ce que j'ai, un ensemble d'éléments que vous avez très bien avancé. J'ai cru comprendre, parce que je suis un peu ignare en la matière, que la notion de rejet, vous la mettiez au-delà de la pulsion de vie, la pulsion de mort, et que vous y voyez un élément complémentaire à la notion de refoulement et de sublimation. Et puis là, vous avez aussi évoqué Uri. L'exemple était vraiment très, très intéressant, où il disait, en fait, quand une action va trop bien ou qu'elle va trop mal, ça veut dire qu'on est dans le refus de la conflictualité, et que donc, quelque part, ce que m'a semblé que vous évoquiez, c'est la valorisation du rejet aussi au niveau de l'action quotidienne. Je pense que des personnes vont intervenir, vont commenter, vont poser des questions sur cette intervention, ce qui va vous permettre, vous, de rebondir au niveau de pouvoir compléter votre intervention. Des questions dans la salle ?